Et nous allons ouvrir notre Bible encore à l'Évangile de Jean, chapitre 14. L'Évangile de Jean, chapitre 14. Et aujourd'hui, nous allons lire les versets 15 à 24. Nous nous rappelons que nous sommes dans la chambre haute, le soir avant la crucifixion du Fils de Dieu. Il est avec les 11, Judas Iscariote étant parti. Jésus dit à ses disciples et à travers eux à nous, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, il parle du Saint-Esprit, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra pas. Mais vous, vous me verrez, parce que moi je vis, vous aussi, vous vivrez. » Il faut enlever le mot « que ». « Parce que je vis, vous vivrez aussi. » Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non au monde ?» Probablement la question est, « Seigneur, pourquoi ne pas amener plus à toi en te manifestant à eux ?» Pardon, j'ai trouvé là, j'ai perdu là. Jésus répond, sans répondre, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et nous ferons notre demeure chez lui, ou en lui, plus exactement. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. » Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Nous allons considérer encore ce matin comment nous pouvons vivre dans l'absence physique de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Le Seigneur est en train de réconforter ses disciples et de leur préparer d'une manière mais complètement suffisante, et nous aussi, d'avoir une suffisance spirituelle complète pour vivre dans ces temps qui sont les nôtres. Et dans ce passage, nous voyons essentiellement deux choses. Nous voyons l'amour des chrétiens que nous sommes pour le Seigneur, et l'amour de la Trinité pour nous. Et nous voyons comment cela va se manifester dans notre vie chrétienne. En fait, dans ces versets 15 à 24, 8 fois, il est question de l'amour de l'amour, soit notre amour pour le Christ, soit l'amour de Dieu pour nous. C'est la première fois que le Seigneur, dans son discours, parle de notre amour pour Dieu. Et Donc nous allons, dans un premier temps, nous arrêter sur notre amour pour le Seigneur, l'importance de l'amour que vous ayez de l'amour pour Christ. Restez avec moi ce matin parce que je sens que avec la fatigue, mon cerveau est un peu au ralenti. Il essaie de rattraper, mais je ne sais pas comment ça. Regardez la structure du passage parce que ça va vous aider. C'est assez net et clair. Regardez le verset 15. Le verset 15, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Regardez ensuite la deuxième division, le verset 21. Même chose, si celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et troisième fois, il redit à peu près la même chose dans le verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Trois fois le Seigneur dit, si quelqu'un m'aime, cela va se manifester d'une manière particulière. Il va garder, il va faire dans sa vie ce que je dis. Maintenant, Jésus a insisté jusqu'à ce moment dans son discours, ce soir-là, sur la foi que nous devons avoir. Rappelez-vous, il a commencé en disant, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il veut notre Seigneur, notre confiance, mais il veut votre amour aussi. Et maintenant, il appuie, si quelqu'un m'aime, si quelqu'un m'aime, si quelqu'un m'aime. Et ce n'est pas qu'ils doutent de leur amour. Remarquez qu'il n'y a aucun commandement à aimer le Seigneur ici. Il ne dit pas, vous devez m'aimer. Il dit simplement, si quelqu'un m'aime, il va m'obéir. D'ailleurs, dans Jean chapitre 16 et 27, il dit qu'il est sûr qu'il les aime, que ses apôtres dans cette chambre les aiment. Encore, il est dans la chambre haute. C'est toujours le même discours. Et dans le chapitre 16 et le verset 27, nous lisons, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti d'auprès de Dieu. Donc le Seigneur était sûr de leur amour comme il est sûr de votre amour pour lui si vous êtes chrétien ici. Il sait très bien que vous l'aimez. Pourquoi est-ce qu'il dit à répétition, donc, si quelqu'un m'aime, si vous m'aimez, et puis ensuite, si quelqu'un m'aime? Il veut fixer dans notre esprit et dans votre esprit, donc, l'importance de votre amour pour Christ, pas seulement votre confiance, mais votre amour pour le Seigneur, et que vous devez continuer dans cet amour et grandir dans cet amour. C'est vrai que même que Jésus n'est pas en train de commander ou de parler de l'obéissance autant que de l'amour ici. Trois fois, il parle, il gardera ma parole, il gardera mes commandements, il obéira à mes commandements. Mais ça, c'est simplement la manifestation de quelque chose de plus fondamental. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc, est-ce que vous pensez souvent à votre amour pour Jésus-Christ? Si quelqu'un m'aime, est-ce que vous aimez Jésus-Christ? C'est la question qui est posée devant nous. Et nous savons qu'il peut y avoir obéissance dans un sens aux paroles de Christ sans amour pour Christ. Ça, c'est en Corinthiens chapitre 13. Si quelqu'un donne même son corps à être brûlé pour le Seigneur, sans amour, ça ne lui vaut rien. Donc, il y a des actions extérieures d'obéissance, il y a des gens qui sont inquiets d'obéir, mais non pas parce qu'ils aiment le Seigneur, mais parce qu'ils aiment leur propre peau et ils veulent éviter l'enfer. Mais c'est une chose tout autre que d'avoir un cœur nouveau où, parce qu'on connaît le Seigneur, on sait qui il est, on sait son amour, ce qu'il a fait pour nous sur la croix, on l'admire. en l'aime lui-même. Et cette vie d'obéissance découle de là. Maintenant, ça c'est donc l'importance de notre amour pour Christ. Quelle est l'évidence de notre amour pour Christ? Et c'est là que nous devons nous arrêter un moment sur cette question d'obéissance. Jésus dit d'abord que l'évidence, peut-être vous vous demandez, est-ce que j'aime vraiment Christ? Est-ce que je l'aime? Et bien sûr, les amis, ici, nous ne parlons pas du tout d'une obéissance parfaite. Jésus n'a pas dit, si quelqu'un m'aime, il gardera parfaitement ma parole. Mais il gardera réellement ma parole. Ça, c'est une évidence, c'est une vérité. Et si vous vous demandez, est-ce que j'aime Jésus-Christ, en d'autres termes, est-ce que je suis véritablement chrétien? Est-ce que mon corps est nouveau? Est-ce que dans cette éternité qui arrive, je serai avec le Seigneur? Le Seigneur nous donne la réponse pour nous montrer la marque, le signe que nous aimons vraiment Jésus. D'abord, l'évidence que tu as un amour véritable pour Christ n'est pas dans le fait que, au moins pour ses disciples ici, et nous pouvons être un peu parallèles à leur expérience, mais n'est pas dans le fait qu'ils veulent que Jésus reste avec eux et ne parte pas. Ça, ce n'est pas une évidence de leur amour. Et c'est peut-être pour ça que Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez mes paroles. C'est-à-dire, ne pensez pas que le fait que vous voulez tellement que je reste avec vous, c'est ça que je veux. C'est ça la manifestation de votre amour que je cherche. C'est pas la manifestation que je cherche. Ce que je cherche comme votre amour, c'est que vous fassiez ce que je dis. Regardez avec moi dans le chapitre 14, là où nous sommes, mais au verset 28. 28. Jésus dit, « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père. » C'est-à-dire, le fait que vous m'aimez, ce n'est pas dans le fait que vous voulez me retenir du Père. Mais c'est juste le contraire. L'amour pour Christ se réjouirait qu'il peut maintenant finir son œuvre et aller auprès du Père. Et donc, parfois, nous avons des critères un peu égoïstes et nous nous rassurons, j'aime Jésus-Christ parce que je veux tellement qu'il soit avec moi. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas comme cela que le Seigneur voit les choses. Deuxièmement, le vrai amour pour Christ n'est pas prouvé par le fait que vous avez des sentiments d'affection pour Jésus-Christ. Des sentiments d'affection pour Jésus-Christ. Je connais des gens avec des sentiments d'affection pour Jésus-Christ. Quand vous mentionnez Christ, et surtout ce qu'il a fait à la croix, ils se disent « j'aime Jésus ». Et ils pensent qu'ils aiment Jésus. Et ils disent qu'ils aiment Jésus. Sauf que toute leur vie montre exactement le contraire. Comment peut-on expliquer ça? Quelle est la source de cette affection? Deux choses, une combinaison de deux choses. Numéro un, on comprend ce que Jésus a fait, quel amour il a eu en mourant sur la croix, et on pense, pas à juste titre, mais on pense forcément qu'on fait partie de ce qu'il a racheté. Et quand vous mettez ces deux idées ensemble, je pense que je suis à Christ et que je vais être avec lui pour l'éternité, parce que j'ai demandé qu'il vienne dans ma vie un jour, ou j'ai eu une expérience un jour. Je pense que je suis à lui et je vois combien il aime ceux qui sont à lui. Si je suis égoïste, ça me dit, ah, c'est bien. Et c'est un peu comme le garçon qui a reçu une lettre d'amour un jour. Il a lu cette lettre et son cœur était tout de suite réchauffé envers une fille qu'il n'avait jamais pensé il n'avait jamais pensé être l'objet de son amour. Et en lisant cette lettre et ses propos d'amour, elle m'aime. Et il ressent une affection pour elle. Sauf que la lettre n'était pas destinée à lui. Il a eu la lettre par erreur. Il l'a lue. Il a pensé être aimé par cette fille. Et maintenant, son cœur a répondu par un élan d'affection parce qu'on aime être aimé. N'est-ce pas? Et donc, il y a quelque chose comme ça qui peut arriver dans la vie des gens vis-à-vis de Jésus-Christ. Mais, donc, nous pouvons comprendre que si vous avez eu dans cette salle, dans cette église ce matin, une expérience qui vous a amené à protester, à professer, je t'aime Jésus. Un jour, je veux vous montrer quelqu'un d'autre qui a été amené à un tel élan. Matthieu chapitre 21, 28. Alors, je vous lis, c'est pas nécessaire de tourner à ce verset. Qu'en pensez-vous, dit le Seigneur, c'est le Seigneur Jésus, il donne une parabole. Un homme avait deux fils. Il s'adresse au premier et dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Vous avez entendu ça de la part d'un de vos enfants une fois? Vous lui dites quelque chose, « Je ne veux pas. » Ben, au moins c'est honnête, n'est-ce pas? Tout est clair. Ensuite, il se repentit et il y alla. On ne sait pas combien de temps après, mais il y a là. Il a fait ce que le Père a demandé par finir. Et j'espère que ça va être l'expérience de certaines d'entre nous au moins. Si nous avons fait un rejet de Christ, il n'est pas trop tard. D'accord? Ça, c'est la bonne nouvelle. Il finit par y aller. Mais deuxième fils, il s'adressa alors au second et donna le même ordre. Celui-ci répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Mais il n'y alla pas. Et je connais des gens qui ont été amenés à un moment donné à dire, « Je veux bien. » Et quand ils ont dit, « Je veux bien. » Ils pensaient vouloir bien. Quelque chose leur poussait un élan très temporaire. C'est ça le problème. Parce que le vrai élan du Seigneur en nous est permanent. Mais pour un moment, protestation, profession, je veux aller. Mais il n'y alla pas. Dans la suite, une vie chrétienne d'obéissance ne s'est jamais développée. C'est Jésus qui nous dépeint ces choses dans la Bible parce qu'il faut que vous sachiez que cela arrive souvent chez nous, dans ce monde. Il nous raconte parce qu'il y a des gens véritables qui ont des noms que vous connaissez ou que je connais, peut-être nous ne connaissons pas, qui sont dans ces cas de figure. Ou peut-être vous. Et donc, nous ne pouvons pas dire que la preuve que j'aime Jésus, c'est qu'un jour, j'ai eu une expérience où j'ai dit, « Oh Seigneur, plus de péché pour moi, plus une vie de péché pour moi. C'est fini. » Et puis, je n'ai pas fait. Ensuite, la preuve que vous aimez Jésus n'est pas le fait que vous avez vécu des expériences miraculeuses ou eu des dons miraculeux. Lisez avec moi dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, les versets 21 à 23. Jésus donne un autre cas de figure pour nous avertir. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui seul qui, regardez bien, fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Même chose que Jésus dit dans notre passage, obéissance. Beaucoup me diront en ce jour-là, c'est-à-dire le jour du dernier jugement, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Vous regardez la répétition du mot beaucoup. Beaucoup diront que nous avons fait beaucoup de miracles. Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Chers amis, le monde spirituel est mystérieux et nous dépasse. C'est un monde transcendant, c'est un monde surnaturel qui est tellement au-dessus de vous. Si vous étiez dans la présence manifeste d'un ange maintenant, vous serez atterré tout de suite par la gloire de sa personne. Nous ne pouvons pas imaginer. Et dans ce monde spirituel qui comporte le bien et le mal, il y a des miracles contrefaçons, il y a des gens qui font des vrais miracles parce que le nom de Jésus est puissant. Judas Iscariote a fait des miracles comme les 11 autres. Et nous ne comprenons pas, et à moins que nous soyons arrogants, nous ne devons pas penser que nous puissions ou devrions comprendre ce qui est tellement loin, au-delà de notre petite intelligence. Mais ce que nous comprenons et nous savons, c'est ce que Dieu nous dit. Et il nous dit textuellement qu'au dernier jugement, nous allons tous entendre le Seigneur qui dit à beaucoup de gens qui se réclament de lui et qui ont vécu des expériences miraculeuses, vous n'avez jamais été chrétien, je ne vous ai jamais connu. Et c'est comme ça. Donc, la troisième fausse preuve que j'aime Jésus, c'est que j'ai vécu des expériences miraculeuses. Maintenant, la vraie preuve. La vraie preuve est celle que Jésus donne trois fois dans ce passage. À répétition, dans le verset 15, et vous voyez des petites nuances qui changent chaque fois. Dans le verset 15, il commence en disant, « Si vous m'aimez, les onze dans la chambre haute, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » C'est très pointu, on ne peut pas s'esquiver, n'est-ce pas? C'est comme ça. Mais maintenant, il le dit de manière à ce que nous soyons inclus. Dans le verset 21, il dit ceci, « Celui qui a mes commandements, et qui les garde. » Et dans le verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. » Et dans ces deux expressions complètement universalisant, le Seigneur dit « celui ». Et d'autres versions traduisent ça « si quiconque ». Si quiconque m'aime, il gardera ma parole. » Et vous voyez que dans ces versets, il y a d'abord, il gardera mes commandements. Deuxièmement, il gardera mes commandements. Troisièmement, il gardera ma parole. Et ensuite, mes paroles. Ça veut dire probablement que Jésus ne veut pas nous parler simplement de préceptes, comment dirais-je, éthiques, pointus. Tu ne mentiras pas, etc. C'est inclus dans les premiers, mes commandements, mais quand il dit ma parole, il élargit. Il veut dire tout ce que j'ai jamais dit, tout ce que je vous ai fait savoir au sujet de l'avenir, au sujet du présent, au sujet de moi-même, au sujet de ce qu'il faut croire, au sujet de ce qu'il faut faire. Tout ce que je vous dis, tout ce qui est dans mon cœur pour vous, vous garderez ça. Et nous pouvons comprendre que toute la Bible doit bien sûr se joindre à cela. Je veux juste vous montrer un passage et puis on va finir cette partie du sermon. C'est 1 Jean, la première épître de Jean, chapitre 2, les versets 3 à 6. Si vous pouvez retrouver ce passage, si vous êtes habile, retrouvez-le rapidement. 1 Jean, chapitre 2, les versets 3 à 6. Alors, Jean dit ceci. « À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu. » Si nous gardons ses commandements. Celui qui dit, parce qu'il y a des gens qui disent, celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. On voit l'amour maintenant. On obéit, on garde ses commandements, parce que on l'aime. Et je voudrais juste vous le dire comme ceci. Est-ce que nous pouvons vraiment aimer quelqu'un? Est-ce que nous pouvons vraiment être attachés du fond du cœur à quelqu'un comme un parent, par exemple, et ne pas se soucier de ce qui est impératif pour cette personne-là. Parce que quand j'aime quelqu'un, s'il y a des choses qui sont impératives, des choses auxquelles il tient, qu'est-ce que ça veut dire, ces impératifs? Les impératifs de quelqu'un, les commandements, s'il peut, s'il est en mesure de commander, c'est simplement ce à quoi il tient. C'est le reflet de son cœur. C'est son cœur. Les commandements de Christ, c'est ce à quoi il tient. C'est le reflet de ce qu'il aime, de ce qu'il veut de tout son cœur. La loi de Dieu, c'est le reflet de lui-même. De lui-même. Quand je dis à mon enfant, « Oh mon enfant, ne vis pas comme ça. » C'est pas juste un truc à faire. Je suis en train de me donner. C'est moi que je livre à mon enfant. C'est ce que je... Oui. Je crois que vous voyez ce que je veux dire. Et pouvons-nous vraiment aimer Jésus-Christ et entendre ce à quoi il tient, ce qu'il est, ce qu'il veut, et dire... Et même pas chercher à savoir ce à quoi il tient. Non, vous n'aimez pas cette personne. Oh, que nous puissions avouer quand cela est vrai de nous, si cela est vrai de nous, que les impératifs du Seigneur ne nous importent pas, ne nous importent pas beaucoup. Parce que lui ne nous importe pas beaucoup. Alors rappelez-vous, on peut toujours être la personne qui dit non et qui se reprend après. Je suis là, pas là pour vous condamner, je suis là pour exposer s'il y a lieu, afin que maintenant vous veniez. Je vais finir ce sermon, je ne vais même pas donner la deuxième moitié, je vais finir maintenant. Je n'avais pas l'intention de le faire, mais je vais le faire en donnant l'histoire de ma femme. Alors, Lina, qu'est-ce qu'il va encore dire? Alors, quand Nikki était adolescente, Donc, elle avait eu ce qu'elle croyait être une expérience de conversion quand elle était plusieurs années plus jeune. Véritablement, une vraie expérience, un vrai volte-face, elle a vraiment accepté le Seigneur Jésus, ainsi de suite. Seulement, pendant les années qui ont précédé ces 14 ans, pendant ces années, entre la conversion qui était plus jeune et les 14 ans, il n'y avait pas de vie chrétienne. Elle ne cherchait pas le Seigneur. Elle n'était pas attachée à la Bible. Enfin, toutes ces commandements, cette voie, cette relation avec Christ qui aurait dû être produite n'était pas présente. Et un jour, à l'école, comme elle était dans une école catholique en Afrique du Sud, la bonne sœur lisait l'histoire de la croix et le poignard. Alors, la croix et le poignard, c'est l'histoire de David Wilkerson, un pasteur américain qui est renommé parce qu'il a quitté son église rurale pour aller à Manhattan et il a passé pratiquement le reste de sa vie, avec quelques mouvements, parmi les pires des gangs de Manhattan. Et il a vu des conversions incroyables parmi ces gens, qui certains d'entre eux sont devenus renommés parce qu'ils sont prédicateurs internationalement reconnus aujourd'hui. Or, ils tuaient des gens. David Wilkerson raconte dans La Croix et le Poignard comment ce bonhomme tranquille dans sa banlieue rurale des États-Unis est allé à Manhattan. Et voilà comment ça s'est passé. Un jour, et peut-être je vais mélanger l'ordre, mais ce n'est pas grave. Il regardait un magazine important du pays qui s'appelait Life. Et il a vu une photo de deux garçons qui étaient en procès, des membres de gang de Manhattan qui étaient en procès pour avoir tué de la manière la plus atroce une vieille dame. Je pense que c'était ça, si je m'en souvenir est juste. Et il ne sait pas pourquoi, mais il a juste commencé à sangloter. Pas simplement au sujet du cas de la dame, mais pour les garçons. Il était pris d'une pitié, d'une compassion. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont descendus jusqu'à ce point-là? Et donc, il était vraiment très, très, très bouleversé par cela. Et dans cette période, soit avant ou après, donc, il est parti après, comme ça, à Manhattan. Il ne savait même pas le nom des rues. Il est tombé au milieu de Manhattan. Il a rencontré les gangs et tout cela. Mais soit juste avant, soit juste après cette expérience, il raconte qu'il a décidé à un moment donné de vendre son téléviseur. Il avait l'habitude de regarder la télévision 2 heures le soir. 2 heures chaque soir, il regardait la télé, la télé, la télé, la télé. Et le Seigneur lui a parlé et il a décidé, je vais vendre le téléviseur et ces 2 heures que je dévouais à tout cela, je vais les passer dans la méditation de la parole et dans la prière chaque soir. C'est un pasteur. C'est un pasteur. Il est appelé à être dévoué d'une manière particulière à la prière et à la parole. Quand la bonne sœur a lu que David Wilkerson a vendu son téléviseur pour passer tant de temps avec le Seigneur Jésus, ma femme était complètement bouleversée. La télévision n'était même pas légale en Afrique du Sud à l'époque. C'est quand elle avait 17 ans que l'Afrique du Sud a permis que la télévision vienne dans le pays, parce qu'avant, ils ne voulaient pas que les médias internationaux puissent raconter des choses au sujet de l'apartheid dans le pays. Donc, elle n'avait jamais vu un téléviseur, Mais elle savait ce que c'était et elle comprenait bien ce que ça représentait comme engagement. Elle est rentrée de l'école chez elle. Elle s'est enfermée dans son placard, derrière ses vêtements. Elle a pleuré amèrement en disant ceci, très spécifiquement. « Oh Seigneur, je réalise maintenant que je ne t'ai jamais aimé. » Ce qui était dans son cœur, ce n'était pas un sentiment de culpabilité qu'elle ne priait pas assez ou qu'elle ne lisait pas la Bible assez, mais que le fait qu'elle ne priait vraiment pas et qu'elle ne cherchait pas la parole du Seigneur révélait qu'en réalité, Jésus-Christ n'était pas cher à son cœur. Et ce jour-là, celle qui avait dit « je n'y vais pas » en réalité, elle s'est repentie et elle est allée. Voilà. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il gardera ma parole que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il gardera ma parole que tu ne feras pas des fausses images de moi. Il gardera ma parole que tu ne prendras pas mon nom en vain, mais que tu seras sérieux au sujet de mes affaires. Il gardera ma parole que le sabbat, le jour du Seigneur, est mis à part. Le jour du Seigneur est pour le Seigneur qui m'a aimé. Et je l'aime et je suis content de lui donner un jour sur sept. Si tu l'aimes, tu ne tueras pas, même dans ton cœur, en gardant rancune et amertume. Si tu m'aimes, tu honoreras tes parents. Si tu m'aimes, tu ne commettras pas l'adultère, ni en regardant la pornographie, ni en pensant dans ta tête à des femmes ou des hommes qui ne sont pas à vous, ni en vous livrant physiquement à l'adultère. Si vous m'aimez, vous ne volerez pas, vous ne tricherez pas, ni sous vos impôts, ni sur aucune affaire de business que vous avez avec qui que ce soit. Si vous m'aimez, vous ne mentirez pas, vous ne ferez pas de fausses déclarations, de faux serments, de faux prononcements, de fausses affaires. Vous ne serez pas faux parce que j'y tiens. Et si vous m'aimez, vous ne convoiterez pas ce qui est à l'autre. Si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Que le Seigneur nous donne à l'aimer, celui qui nous a aimés. Nous allons chanter. Esprit de Dieu, crée en nous la foi, parce que l'amour vient de la foi. C'est le numéro 174 dans le recueil bleu.
De notre sauveur.
le Saint-Amour. Allumons notre âme, la flamme de la vérité dans la charité. Esprit de Dieu, ranimons-nous l'espoir. Comme sur notre route tout est noir, viens et nous éclaire de ta lumière. En nous confiant, toujours vigilant. Je vais terminer le culte dans la prière. Ô Dieu, nous savons que tu nous aimes, chacun qui est ici. Tu as tant aimé le monde. Tu nous vois ce matin, chacun de nous. Tu nous sondes nos cœurs. Et nous prions, Seigneur, que si nous sommes chrétiens et que nous t'aimons, ô Dieu, que cet amour si imparfait et parfois vacillant puisse être raffermi et vraiment agrandi. Et si notre vie manifeste que nous ne t'avons pas véritablement aimé, ô Seigneur, je prie que tu puisses faire en sorte que ce matin même, ces personnes soient comme le premier fils qui est revenu sur ses pas, qui s'est repenti et qui y alla. Qui puisse venir à toi, voir ton amour, voir ton corps suspendu à la croix pour eux, et maintenant dire, Seigneur, si tu m'as aimé, il faut que je t'aime aussi, mais aussi véritablement que tu m'as aimé. Qu'il en soit ainsi. Amen.